Alors, avant de passer la parole à la salle, je voulais appeler une... Nous avons fait une journée Paul XIV en 2003 à l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud, justement, avec le prétexte en deux mots du texte du psychiatre Paul Guiraud sur les meurtres immotivés. Et on l'avait appelé d'ailleurs les meurtres dits, entre parenthèses, immotivés. Donc on avait à ce propos réuni psychiatres, experts, juristes et psychanalystes sur la logique du passage à l'acte. Alors je voulais juste vous parler de l'expérience et du témoignage d'une avocate pénaliste qui s'appelle Claire Doublier, qui nous a parlé de la complexité accrue, tant pour les avocats que pour les jurés, ainsi que des effets catastrophiques pour l'accusé, de l'introduction dans la loi, donc en 2003-2004, au nom de son humanisation de la loi, de la catégorie « altération partielle du discernement ». Cet entre-deux, comme elle l'appelle, d'une irresponsabilité partielle, condamne néanmoins en cas de meurtre, puisqu'il y a responsabilité, tu l'as bien expliqué, condamne à la cour d'assises et au régime carcéral. Alors qu'avant, c'était ou tout responsable ou pas responsable du tout. Mais il y a ce tiers, cette troisième catégorie, il y a une altération partielle. Donc tu as tout à fait décliné les exemples. Devant un acte que personne ne comprend, la peur est à tous les échelons, aggravant paradoxalement la peine, ce qui s'est passé, au point qu'il a fallu modifier la loi en 2014 en la réduisant d'un tiers. Alors, qu'en dit le philosophe Louis Althusser, qui a été jugé irresponsable de son acte et interné? Alors peut-être qu'Irène, tu as quelques petits éléments à nous apporter sur Louis Althusser. Parce que
j'ai lu ce livre il y a un certain temps, mais... J'ai lu ce livre
il s'est plaint, en tout cas, tu sais.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a dit, c'est que. Il s'est, je ne sais pas si vous voulez dire réveillé, mais de son état de torpeur, un matin, donc, et il a vu sa femme morte, il était convaincu que c'était lui qui l'avait tuée. Et il a dit ensuite qu'il l'avait suicidée. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est que elle lui aurait demandé à plusieurs reprises parce qu'elle allait mal, pour la différentes raisons. Et en plus, leur relation était quand même assez complexe. Voilà. Oui. Non, mais il en parle dans ce livre. Hein. Bon, je ne vais pas reprendre tout le livre, mais ce que je trouve intéressant, c'est que il dit je l'ai suicidé. Et donc, par la suite, donc, il déplore qu'il n'ait pas été jugé pour cet acte, puisque c'est lui qui l'avait commis. C'est-à-dire qu'il ne se souvient plus de son acte, mais il a la conviction que c'est lui qui l'a commis. Il voit sa femme, il a la conviction que c'est lui qui l'a commis. Et, pardon ? Oui. Oui, je suis faisant ça. Et donc, suite à ça... Alors, ma question, c'est quand même, effectivement... Il voudrait être jugé pour cet acte qu'il est convaincu d'avoir commis, mais en même temps, il dit « je l'ai suicidé ». C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une injonction qui vient de l'extérieur, pas de lui. Et je trouve que ça renvoie à la complexité de, effectivement, altération, comme vous disiez,
partielle.
Voilà, partielle. Bon. Il a commis cet acte, il en est convaincu, il dit qu'il veut être jugé, et en même temps, il dit « je l'ai suicidé », c'est-à-dire que c'est elle qui m'a demandé de... J'ai répondu à sa demande de passage à l'acte, de commettre cet acte.
C'était un grand débat à l'époque, cette histoire de la responsabilisation ou de l'irresponsabilisation.
C'est pour
d'ailleurs,
ça que
oui.
Dans l'avenir, trop longtemps, il est fait ce qu'il explique. C'est qu'il veut être jugé. Il refuse la pierre tombale du silence, comme il dit,
voilà.
Que lui donne l'irresponsabilité. Oui. Il veut être jugé pour pouvoir s'expliquer sur pourquoi il a commis ces faits-là.
Voilà.
Hein,
c'est ça.
Donc c'est ce que je veux dire.
Il veut être entendu.
Il veut être entendu.
Oui.
Donc voilà, ce qu'empêche la notion d'irresponsabilité.
Ça ne veut pas dire qu'après le jugement, il ne soit pas déclaré demande de soins.
Non condamnable. Voilà.
Mais passer par la jury.
C'est ce qu'il réclame. Voilà.
Alors, juste avant de passer aussi la question à la salle, j'ai repris ce que dit Lacan dans un texte de 1950. C'était justement dans plein débat sur la responsabilité du sujet. Et ce texte qui est dans les écrits, qui s'appelle « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie ». C'est un texte que je trouve assez remarquable. Je dis même qu'il devrait servir de codex à ceux qui réfléchissent à l'acte, sur l'acte juridique. Donc dans ce texte, Lacan rapproche et différencie le psychanalyste du pénaliste. Je le cite. « L'expert, article 64 du Code pénal, ne pouvant répondre du caractère contraignant de la force, c'est dans le texte de loi, hein, le caractère contraignant de la force qui a entraîné l'acte du sujet, peut tout au plus repérer qui a subi cette contrainte. Si Lacan rapproche le psychanalyste du pénaliste par leur commune recherche de la vérité, c'est pour en souligner l'antinomie entre vérité et savoir. De quelle vérité s'agit-il ? De celle qui touche à la vérité de l'acte ou celle qui concerne le sujet ? Le juge interroge le délinquant ou le criminel sur ses mobiles, il en exige l'aveu pour en évaluer la responsabilité, donc le châtiment. Mais comment avouer une cause dont on ne sait rien ? Les minutes du procès des sœurs Papin à travers la pauvreté de leur texte, contrastant avec l'horreur du passage à l'acte, elles ont arraché les yeux de leur victime encore vivante, font signe que dans le passage à l'acte, le sujet ne sait rien de la force qui l'a contraint. Christine Papin refusera d'ailleurs de signer son acte, elle pour qui le nom propre n'a pu faire marque, n'a pu faire trait. La vérité, continue Lacan dans ce texte, n'est pas, alors c'est ça formidable, n'est pas une donnée qu'on puisse saisir dans son inertie, mais une dialectique en marche. C'est moins le contenu de sa révélation, ce que le juge recherche, que le ressort de sa reconquête qui fait l'efficacité du traitement. Et il ajoute que si la psychanalyse irréalise le crime, elle ne déshumanise pas le criminel. Car la cruauté de l'homme implique l'humanité, c'est-à-dire que c'est un semblable qu'elle vise, le double. Mais attention, dit Lacan, la psychanalyse du criminel a des limites qui sont exactement celles où commence l'action policière, dans le champ de laquelle elle doit se refuser d'entrer. Plus loin, mais c'est précisément parce que la vérité qu'elle recherche est la vérité du sujet qu'elle ne peut que maintenir la notion de responsabilité, ce que réclament d'ailleurs les sujets, hein, sans laquelle l'expérience humaine ne comporte aucun progrès. Mais c'est pas parce qu'un sujet réclame la responsabilité qu'il ne peut pas aboutir à une injonction de soins. Hein, on n'est pas obligé d'aller en prison parce qu'on réclame sa responsabilité au sens de l'acte et de pouvoir se faire entendre, comme disait Jean-Pierre. Hein. Bon, voilà ce que je voulais ajouter. Puis je passe.
Est-ce que je peux rajouter une petite chose avant? Donc, j'ai complètement oublié de vous dire, alors je pense qu'elle est essentielle. C'est-à-dire que c'est la question des monstres.
Ce qu'on appelle
les monstres. Hein, ce qu'on appelle les monstres, assassins d'enfants, tueurs récidivistes, dépeceurs, les grands pervers. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, mais. Les grands pervers, il n'y a aucun. Ils sont toujours responsabilisés. Même si. Donc, ils ont responsabilisé, même si le crime est absolument inouï et comment, pathologique en lui-même. Quoi, oui. Hein, la répétition, la froideur.
Oui, c'est ça, la froideur.
Donc, c'est un débat, je sais que Daniel Henry est venu ici et on partage le même avis. Mais tout le monde ne partage pas. Jean-Claude Pénochet, qui est un autre confrère, lui, pense que ben, c'est bien comme ça. Que moi, j'ai l'impression, chaque fois qu'il y a un grand pervers, c'est pas très, très fréquent, mais ça arrive quand même une fois par an. Là, et que je ou on, si on les deux le déclare comme responsable, je mens. J'ai l'impression de mentir, parce que parce qu'ils n'ont aucune liberté. C'est-à-dire que si on revient à la question du libre arbitre, je fais un acte parce que je vais, les grands pervers, ils n'ont aucune liberté, ils ne peuvent pas échapper. Ils ne peuvent pas échapper, donc c'est pour ça qu'ils sont froids, distanciés, qu'ils nous glacent.
C'est même pas eux qui commettent.
Non mais ils nous glacent parce que il est. Et donc normalement, si on appliquait la règle du discernement, c'est-à-dire du libre arbitre. Est-ce que le sujet a dit « je dépèce cet enfant ou pas ?» Non, non, non. Il n'y a, y a pas dixième de millième de millimètre donc entre l'acte et l'élément pulsionnel. Donc normalement, on devrait dire « alors là, ça serait un tollé ». Qu'est-ce que c'est donc ces grands pervers? Tout le monde veut les punir, et c'est normal, hein, je ne discute pas. Il faut les punir lourdement, ils sont dangereux, etc. Mais la question, normalement, ils ne devraient pas aller en prison. Ils devraient aller dans des hôpitaux spécialisés dans les quartiers. Donc, et je termine là-dessus. Moi, je me souviens d'une des premières affaires qui m'avait. C'était dans l'Oise.
Ah, bah, le tueur de l'Oise, clairement.
Ça, l'Oise, clairement l'Oise.
Moi, j'habitais l'Oise.
Donc. La chronique est effrayée par un. Tueur en série qui tue des femmes et au début on ne sait pas comment, mais il tue des femmes d'âge différent. Il y a une jeune fille, un pubère, il y a une femme déflorée, une femme enceinte, une mère, une femme enceinte. Et puis un jour on trouve il y a une femme qui s'échappe. Elle s'échappe et hop, elle témoigne. On arrête un gentil jeune homme donc chez qui on trouve un document dans lequel il a fait la liste de tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Et effectivement, il y a un programme, une enfant de 5 ans, une enfant de 10 ans, une jeune fille, une femme, une femme enceinte, etc. Il les torture, c'est absolument abominable. Et donc je l'examine et je vois un jeune homme normal. Voilà, normal, plus normal que lui, normal, sauf que il est resté chez ses parents jusqu'à 25 ans, aucune expérience sexuelle, il est employé à Orly, et puis mais il rentre tous les soirs chez lui, et tout, il n'a pas beaucoup d'activités ludiques, il est un petit sage comme une image. Et puis, il est Roissy, et l'aéroport de Roissy est créé, il est muté à Roissy. Et là, il va avoir une chambrette, un petit studio, il quitte papa et maman, il est dans une situation un peu, pour la première fois, d'autonomie, pas voulu. Hein. Et puis, il va se promener un jour chez Gilbert Jeune, alors là, on va pouvoir dire, et il se dirige, ou c'est le hasard qu'il fait, il va vers le rayon des érotiques. Alors, c'est un jeune homme peut-être un petit peu quand même tourmenté, même s'il n'est pas encore bien... Et il va vers le rayon des bandages, les bandes dessinées de femmes enchérées dans des trucs en cuir, suspendues par les bras, les poignets, etc. Oui. Sadomaso. Oui. Et là, il a l'extase. C'est-à-dire qu'il rencontre, pour la première fois, c'est l'extase. C'est-à-dire que, ça y est, il a trouvé le... l'orgasme, un orgasme comme ça devant un truc là. Et il va ensuite développer ce que je vous ai dit, donc il va entrer, ça va mouliner, etc. Donc comme il est un peu timide, un peu incapable, etc., il va mettre en place cette affaire. Donc il a. Et donc je me suis. Donc responsable, il a été condamné très lourdement, il est toujours encore en prison, je crois que c'est il y a 30 ans. Et je me suis dit à cette époque-là, alors c'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse à ça. Je me suis dit, au fond, parce que ce n'est pas le seul qui m'a posé cette question, qui me pose l'exemple, c'est au fond, ce jour-là, il a rencontré sa perversion. Je schématise beaucoup. C'est-à-dire que quand il. Et je me dis, au fond, et on retrouve cette histoire assez souvent chez les grands. Alors qu'un jour, alors on peut se dire, s'il ne va pas chez Gilbert Jeune. Et si il va pas. Alors, bien sûr, il est allé, donc on peut toujours, dans la dialectique, hein, mais je pense que. Je pense qu'en fait, par rapport à la perversion, là on est dans la grande perversion criminelle, bien sûr, mais par rapport à la perversion en général, où le libre arbitre est minime, donc je pense que le pervers, pour passer à l'acte, il rencontre à un moment sa perversion. Je termine là-dessus parce que je ne veux pas. Un autre exemple, c'est à l'époque où on expertisait des exhibitionnistes. Maintenant, tout le monde s'en fout, les exhibitionnistes, ils ont une amende, mais dans l'Oise, dans les années 75,
dans l'Oise.
C'était une affaire. Et il y a un truc qui m'avait beaucoup qui m'avait beaucoup surpris, c'était un jour, je vois en expertise un exhibitionniste qui était donc. Aucun problème, ni sexuel, ni autre, dans sa vie, jusqu'à un jour de printemps.
Oui, chez Giberge.
Non, parce qu'il avait coupé le chauffage, c'est très important. Il avait coupé le chauffage de sa petite maison qui était en bord de route en allant vers Beauvais. Et puis, c'était un printemps un peu frais et il descend. Il se lève, il descend donc dans sa cave ou son parking et à poil. Alors, des discussions, mais il dormait à poil, il descend à poil, il est chez lui. Et il allume sa chaudière et il lui prend l'idée il va regarder dehors, il ouvre la porte de son parking, il regarde dehors, il est à poil. Et là, il voit passer, c'est lui qui dit ça, il voit passer un camion, un 15 tonnes, et il voit le regard du chauffeur de poids lourd sur son sexe. Là aussi, émotion intense. Non, mais émotion intense. Ils décrivent tous les mêmes choses. Hein. Jamais connu ça avant, etc. Et il va répéter ce truc. Alors, là aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'il allait faire à poil, ouvrir sa porte à 8h du matin, etc. D'accord. Mais bon, si le camion n'est pas passé, si le camion passe pas même moment. Voilà, bon, j'arrête là. C'est un autre débat, mais il y a quelque chose là-dedans sur le déclenchement de la mécanique perverse qui interroge ça. Alors, on pourrait dire qu'il y a plein de mécanismes pervers qui dorment, et qui ne se réveilleront que s'ils sont stimulés.
Alors, moi, j'ai reçu, envoyé par un collègue psychiatre, j'ai reçu un gamin de 12 ans qui avait tué accidentellement sa mère avec la carabine de son père avec laquelle il jouait. La mère qui était entrée tenant la petite sœur dans ses bras. Donc la carabine est partie et a tué la mère, enfin, la petite sœur, etc. Donc tout de suite, en bas de combat. Mais ce qui a été dramatique pour cet enfant, en tout cas c'est ce qui s'est développé, c'est que c'est justement le jugement. Tout le bruit qu'a fait ce passage à l'acte, y compris le juge qui a dit que c'était une histoire édipienne, d'accord, hein. Mais dans le développement de cette cure, cet enfant, sans le savoir naturellement, était le bras armé d'un père, qui n'était pas debout, c'est sûr, et qui, dans son enfance lui-même, parce que c'est exactement le même âge, etc., avait reçu en jouant avec son frère, a reçu une pierre dans l'œil, a eu l'œil crevé, a dû s'arrêter d'aller à l'école, de faire du vélo qu'il adorait, etc. Il y avait une jouissance entre la mère et le fils à l'œil atteint, etc., sur cet œil crevé. Tout ceci étant, je ne vous déduis pas toute la cure, mais il y avait quelque chose, c'est cet enfant, et il a dit une phrase qui a stupéfié tout le monde, enfin c'est le père qui a dit au tribunal une phrase qui a sidéré tout le monde, c'est grâce à moi que mon fils a pu tuer sa mère. Et c'était là la logique du passage à l'acte, parce que c'est la logique du passage à l'acte. C'est vrai que si on peut écouter, naturellement, Lacan dit attention, on ne peut pas écouter les criminels, etc. Pour moi, ça. Là, c'était un enfant, etc. Mais ça a déclenché cet enfant, qui était un enfant très pâle, très lucide, très tranquille, ça a dessiné chez lui une violence qui a été difficile à contenir dans l'institution où il était. Bon, c'est un cas, d'autres différemment, mais je crois qu'il y a une logique dans le passage à la croix, tout le monde disait quelque chose, et on ne peut pas la connaître si on n'est pas appelé à déplier cette logique, hein, c'est sûr. Alors, bon, mais ces grands monstres, je ne sais pas s'il y a quelque chose de possible, hein, qui sont pris dans quelque chose qui
les dépasse, quoi, hein, qui les dépasse.
Oui, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Hein. Mais et tout le monde est terrifié et on n'a qu'une chose à faire, c'est de les contenir à vie. Hein. En général, ils sont. Hein. Mais maintenant, on peut être déclaré interné à vie, s'est levé au bout d'un certain nombre d'années. Et on voit bien que dans les, ce qu'on appelait la, la page des journaux, ce qu'on appelait chien écrasé, c'est pas trop joli, hein, de tous ces passages-là, tous ces récidivistes, hein, qui sont très gentils, qui sont parfaits, en prison, comme à l'hôpital, etc. Ils sortent, ils claquent, c'est comme si rien s'était inscrit. Hein, ça reprend au même endroit. Les fourneries, les trucs.
Oui, ben c'est typique, ça. Hein.
Parce que c'est pas rien.
Alors, quel sens a l'obligation de soi ?
Moi, c'est toujours ce que je me suis posé comme question. Tu vois arriver des gens qui ne viennent que pour ne pas aller en prison.
Réassurance. Hein ? Réassurance, parce que le juge, quand je dis le juge, c'est la justice. Oui. C'est, hein, pense que... Parce que sinon, c'est impossible. De dire si on, nous on sait que dans l'obligation de soin ça n'a pas beaucoup de sens sur le plan du soin justement, même s'il y a des travaux qui avaient été faits à Lyon par exemple sur les injonctions de soins chez les toxicomanes et à la grande surprise générale ils s'étaient aperçus que les prises en charge sous injonction avaient mieux fonctionné que les prises en charge libre individuellement. Donc nous on sait bien que sur ces grandes pathologies, l'injonction de soins ou les ne fonctionne pas, ne fonctionne pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Ce qui marche bien bizarrement dans les injonctions de soins pour les crimes sexuels, c'est chez ceux qui nient, par exemple. Parce qu'il y a ça, j'ai pas parlé de ça mais encore. Il y a qui nient malgré l'évidence, 30 témoins. L'ADN, maintenant, on ne peut plus nier. L'ADN, c'est la fin des enquêtes, c'est terminé. Donc, il nie. Bon, donc, alors, parfois, ça m'arrive de conclure une injonction de soins, etc. Alors, je sais bien qu'il n'y a aucun espoir thérapeutique ou autre, mais parfois, c'est des négateurs qui restent dans le silence, qui mettent aucun mot sur l'acte. Dans les groupes, ils entendent d'autres qui ont les problèmes proches, si ce n'est pas identique. Et d'autres qui ont plus de capacité de verbaliser, qui donc disent un certain nombre de choses qu'ils ont ressenties de leur mécanisme. Et parfois, moi souvent je conclue en disant, dans un cadre plus pédagogique que thérapeutique, j'aime ça. Parce que c'est voilà. Mais vous avez raison, c'est...
Parfois quand même, on peut, effectivement, si on peut accrocher à un transfert avec un patient, il te vous raconte que son passage à l'acte sexuel lui-même a été violé enfant, parce que c'est très fréquent ça. Quelquefois, ils peuvent en parler. Parfois. Non. Je te dis, c'est pas monnaie courante. Hein. Donc, je crois que c'est ça qu'espère le juge, c'est qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Mais en tout cas, souvent, ils viennent pour éviter la prison ou le retour en prison, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas ? Ça peut être un début de rencontre, de transfert, oui.
Oui, je voudrais juste introduire une nuance dans les propos tels que je les entends, mais je dois faire appel à une expérience que j'ai conduite pendant une dizaine d'années, mais qui a une dizaine d'années aussi, où j'ai supervisé une équipe de psychologues en prison, en centre pénitentiaire dans le nord de la région parisienne. Et le souvenir que j'en ai, c'est que donc il y a l'injonction de soins, qui pour certains a été utilisée strictement comme une monnaie pour avoir plus de permission ou pour avoir une réduction de peine. Mais pour d'autres, leur a permis de découvrir la fonction même de la parole. Et il y a des personnes qui ont critiqué leur art, d'autres ont pu se complaire à le décrire et à produire. Donc je ne crois pas qu'il faut généraliser
J'ai dit que le début, c'est mettre des mots. Mettre des mots, et donc c'est mettre du sens autour d'actes qui sont parfois bruts. Qui n'ont jamais été pensés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a qui ont accès à ça. C'est pas tous, bien sûr, mais certains. C'est
plutôt rare. Des questions ? En tout cas, ça laisse sans quoi. Ce passage à l'acte.
Oui, ça... enfin, bon, moi j'ai une expérience, mais c'est bon, quelqu'un qui est passé par la prison, mais donc il n'a pas été considéré comme malade lors de son passage à l'acte. Bon, c'est pas un passage à l'acte, c'est pas un crime. Il a, bon, il s'est fait entraîner dans une histoire de braquage. Voilà, c'était cet ordre-là. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu. Mais c'est dans l'après-coup, en revanche, ce qu'il dit lui, c'est que la prison l'a marqué. Qu'il y a un avant et après la prison pour lui, parce que
oui,
tout ce qu'il a vécu en prison, c'était pas rien, notamment je pense sexuellement, il y a vraiment quelque chose qui a. Et maintenant, bon, alors c'est indépendant, c'est-à-dire que c'est pas une injonction de soins, il est suivi au CMB par un psychiatre et puis moi-même, et alors que c'est vrai que en général il poursuit pas ce qu'il fait, il est toujours dans une espèce d'idée de toujours vouloir partir, et là pour le moment ça fait un an qu'il s'y tient, et bon, il a commencé une formation tout récemment en disant oh, je vais pas tenir, mais en même temps il dit oh, en même temps j'ai pas trop de solutions, bon voilà, mais c'était pas dans le cadre d'une injonction de soins qu'on le voit. C'est après,
il y a l'effet thérapeutique de la prison.
Oui, mais enfin, je pense que c'est
aussi.
Enfin, je vais pas décrire ce qui s'est passé parce que c'est
personnel. Des exemples.
Ce qu'il a vécu, c'est très bien. Oui. Enfin, là, c'était pas thérapeutique. C'était, je pense que
pas parce que la prison est thérapeutique, c'est parce que le fait d'être en contention, d'avoir un endroit et d'avoir du monde, d'y avoir du vivant, c'est des sujets très isolés. Il y a des donc pour chacun, c'est une affaire différente.
Oui, c'est ça. C'est que vraiment.
C'est pas l'effet thérapeutique en général. Comme à l'hôpital, d'ailleurs. Il y a des patients qui ont beaucoup plus de mal à sortir de l'hôpital qu'à y rentrer. Hein. Ça, on pense toujours qu'ils sont enfermés et qu'il faut les faire sortir. Mais souvent, c'est quand ils sortent qu'ils vont pas bien du tout.
Mais c'est vrai que concernant l'injonction de soins, moi, j'ai pas trop d'expérience de personnes que j'ai vues dans le cadre d'injonctions de soins qui ont vraiment poursuivi au-delà de la date.
Est-ce que,
enfin, la, alors, oui, pardon.
Est-ce que la visée. Non, c'est pas grave. Est-ce que la visée de l'injonction thérapeutique, c'est pour dire quelque chose sur le fait qui le concerne, ou est-ce que c'est la question de la parole, c'est-à-dire en dire quelque chose de lui-même, pour parvenir à autre chose, la visée.
C'est pas la vérité de l'acte, c'est la vérité du sujet.
Oui.
Oui, enfin, dans l'injonction de thérapeutique, c'est qu'il puisse en dire quelque chose sur les faits, c'est presque à la limite qu'il s'en explique un peu ce qu'il a fait.
Non, c'est pas le but.
Là, il y a quelque chose de ce genre.
C'est-à-dire que l'injonction de soins, c'est venu en fait des expériences québécoises, et au début, c'est uniquement sexuel. Hein, ça ne concerne que la sexualité. Puisque au Québec, il y a depuis très longtemps une prise en charge très codifiée, très cognitiviste, comportementaliste, les troubles sexuels, qui, il y a une vingtaine d'années, tout ce qui venait du Québec, des résultats considérables, diminution de 75% des rechutes, en fait, en s'y approchant, on s'est aperçu que c'était moins évident que ça. Et donc, voilà, c'est ça, c'était... Et maintenant, ça s'est étendu, puisque maintenant, une particulière violence, une particulière agressivité peut conduire à l'injonction. Donc, c'est passé de sexuel à comportemental, en général. Mais, en fait, on est tous d'accord pour dire que c'est imparfait, mais que certains, effectivement, y rencontrent pour la première fois quelqu'un qui va les écouter, quelqu'un qui va pas les traiter en objet, mais donc il y a parfois ces rencontres-là, qu'on connaît tous. Hein, bon. Mais aussi, ça permet à la justice de résoudre quelque chose, parce que sinon, les juges sont devant une situation... voilà, alors on condamne, on limite quelqu'un, et tout à l'heure, je l'ai dit tout à fait au début, maintenant, l'obsession... C'est la question criminologique, c'est la dangerosité. Et à la limite, responsable peut-être, à leurs moyens, atterré, aboli, bon, d'accord. Mais est-ce qu'il va recommencer? C'est ça. Et donc, la tentation, effectivement, de faire appel à des systèmes actuariel. Le mot existe maintenant. C'est-à-dire on fait uniquement des protocoles de probabilité de repassage à l'acte. Alors, un père incestueux ou qui commet des incestes et puis des parincestes, c'est-à-dire les amis des enfants, ben, c'est vrai qu'on ne le retrouve jamais à la sortie des écoles ou dans les tunnels pour, avec un couteau pour essayer de violer une femme. Ce n'est pas les mêmes. Donc à ce moment-là, le juge va interdire toute activité se rapprochant des enfants, pas d'enseignement, pas de ceci, etc. Donc, et l'injonction vient au fond pour rassurer un peu le système. C'est-à-dire que il faut dire aussi à notre charge hein, que nous, les soignants, hein, psychiatres, psychologues, on a tellement dit qu'on était puissants qu'ils ont fini par le croire. Je m'attiens plus, mais c'est vrai. On a tellement dit aux juges qu'on savait faire, hein, que donc on a voilà, et qu'on en a un petit peu trop dit, et que eux, ils ont, ça les arrange bien aussi. Mais voilà, ils ont pris au mot. Vous savez y faire, et ben voilà, allez-y. Donc combien vous voulez, 5 ans d'injonction, voilà, voyez-le, et vous me le rendez guéri. Alors nous là, on sait que c'est plus du tout la même affaire. Mais donc on est un peu complice de ça, de cette affaire. Mais ça démarre vraiment au Québec. Avec les systèmes de thérapie cognitive et comportementale, hein, donc qui marchent pas. Pas plus ou pas moins que d'autres, mais à un moment, il y a eu l'illusion que c'était la clé.
Oui, voilà, la ligne est bien marquée, je trouve. On sait qu'on ne va pas soigner le trouble sexuel de la personne. Alors, si ça lui permet par ailleurs parler, très bien. Mais du point de vue de la société et de la possibilité des récidives, il ne faut pas faire de fausses promesses.
Bien sûr.
Il n'y a aucune perspective.
Bien sûr. C'est pas à vous que je dirais que. Qu'est-ce qu'on sait de la sexualité des gens, même après 4-5 ans d'analyse je veux dire que c'est très difficile. Donc, moi, je le dis souvent, ça, parce qu'il faut exposer ça. Donc devant le tribunal, devant la cour, et quand les questions deviennent trop précises sur sexualité, ce que c'est, je dis comment voulez-vous, ce que je vous dis c'est une impression générale, on ne sait rien de la sexualité, la sienne, on ne sait pas tout, et celle des autres c'est très difficile, et même, il faut beaucoup de temps pour que quelqu'un se confie. Bah, on sait très bien aussi, il faut du temps hein, pour arriver au cas, quand on y arrive, au cas du problème. Donc c'est pas en une heure et quart qu'on fait le tour de la situation. On peut uniquement voir les grands dysfonctionnements. Quoi.
Mais aussi le viol et le meurtre sont très liés dans l'esprit des gens. Enfin, pour les passages à l'acte qu'on voit dans les journaux, le violeur est un tueur en puissance. Enfin, il y a un glissement souvent là-dessus. Hein.
J'ai appris d'ailleurs récemment, j'ai appris ça il y a quelques jours au congrès de Lyon, là, et j'animais un débat sur le viol conjugal.
Ah oui, c'est une grande.
Le viol conjugal, et ce que
j'ai
appris.
Il y a une femme qui a gagné un procès, que son mari l'a
violé. Mais c'est pas du tout rare.
Oui, oui.
Et savez-vous que c'est souvent l'homme. Il y a eu des cas de femmes, mais enfin, c'est souvent l'homme. Eh bien, il est plus puni que, je prends un exemple précis, le violeur prédateur sorti du RER à 1h du matin, il est moins puni que le conjugal. C'est une surpeine, puisque c'est viol sur conjoint ou concubin. C'est tout à fait répréhensible, etc. Il y a des fois des situations qui sont complexes, qui ont été ensemble, qui ont vécu ensemble, qui sont séparés, qui se remettent là. Bon, il y a une. Et c'est au violeur supposé de faire la preuve qu'il a eu le consentement. Donc, et ce qui fait que. Aux États-Unis, il y a des groupes féministes qui demandent un document de consentement. Ça va alourdir la procédure. Et si tu n'as pas de document de consentement, Non, mais... Non, tout ça pour dire que c'est pas compliqué.
Bon. Et alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je voulais juste vous... Il y en
a d'autres, hein ? Alors, le micro...
Excuse-moi, je n'avais pas vu.
Oui, non, bon, peut-être pas... Oui, bah, votre avis par rapport à... J'étais étonné des... Bon, j'ai participé un peu à un dispositif de ces jeunes radicalisés. Donc, qui aujourd'hui, il y a beaucoup de ces jeunes qui sont radicalisés, qui sont en prison actuellement, mais ils ne sont pas commis d'actes. Mais, justement, ils sont inculpés, en quelque sorte, parce qu'ils allaient commettre un acte. Donc, votre exposé m'a éclairé sur justement le glissement qui existe aujourd'hui par rapport à ces questions des individus dangereux, des petits monstres, parce qu'ils sont des mineurs souvent qui sont là et qui se retrouvent et la famille découvre qu'ils découvrent presque un monstre. Ils découvrent, c'est pour la question des soins, c'est pour la question de tout ce que vous avez exposé, effectivement. Il me semble qu'aujourd'hui, nous assistons
à... Bien sûr.
C'est
tout à fait. Et c'est un sujet très complexe, puisqu'il divise énormément la communauté des psychiatres et des psychologues, puisque... d'abord, dans le droit français, l'intention n'est pas un acte de délinquance. On peut pas... Alors qu'effectivement, la suspicion de dangerosité amène à des dispositions de contraintes. Et que cette question divise beaucoup. Moi, j'ai, j'ai un exemple. Il y a 3 ou 4 mois, on souhaitait faire dans la revue La Formation Psychiatrique un numéro spécial sur ça. Au fond, qu'est-ce que les psys ont à faire ou non avec la question de la radicalisation ? Eh bien, ça n'a pas été possible parce que les avis sont tellement contraires et tellement violents qu'il n'y aura pas de numéro spécial sur la question. Non, parce que c'était au-delà de la... On peut discuter, être d'accord, pas d'accord, échanger, mais là, c'était des positions tellement clivées que c'était... Alors c'est, oui, d'abord, c'est nouveau, et, mais il n'y a pas, de, pour l'instant, de discussion possible. Mais ça pose un problème. Il y a ceux qui disent on n'a rien à faire avec cette question. Et il faut savoir que ça, c'est quand même très français... ou latin, je crois que c'est à peu près pareil, la même position en Espagne ou en Italie. En Europe du Nord, il y a une collaboration étroite entre les psychiatres ou psychologues et la police. Hein. Et le groupe européen, il y a un groupe européen qui se réunit. Donc moi, je suis stupéfait du fait que la question éthique n'est jamais venue. Jamais. Et on ne se pose pas de problème. Alors, hein, donc, alors que nous, on se pose beaucoup de problèmes. Certains disent trop, enfin, mais donc c'est un point très très chaud.
Est-ce que ce n'est pas lui à tout... J'ai une petite expérience indirecte, parce que je fais le contrôle du psychologue en quartier d'évaluation de la radicalité, où les 4 fois où elle m'a parlé de patients, enfin, c'est pas les patients, c'est de personnes qu'elle voit en prison, a un mandat très précis qui est donné par la justice et l'obligation de ramener tous ces propos. Et pourtant, ce sont des gens qui se livrent. Je veux dire, c'est très intéressant par rapport à la question de la parole, de dire que c'est des gens qui saisissent ce dispositif pour parler pendant 1 heure ou 2 heures à chaque fois. Hein. Et alors qu'ils sont en position d'accusation. Mais ce qui me frappe, c'est que ce qu'elle me décrit, c'est 1 schizophrène et 3 parano. Hein. Et que c'est complètement aboli par la justice. Tellement il y a des réactions passionnées à l'heure actuelle, on ne peut pas entendre, y compris dans la communauté psychiatrique, il y a quand même
une maladie.
Bonne partie parfois. De grands malades. Hein, et ça aussi, on s'est une pierre qu'on porte nous, en vrai.
Alors, une des raisons de l'évitement, c'est aussi de ne pas être chargé de quelque chose qui dépasserait. C'est-à-dire que de devenir le centre expert, parce qu'il y a cette idée-là qui court au niveau de l'agence régionale, de faire des centres experts. Donc, pour séparer ce qui serait le radical et le radical par souffrance psychologique. Et on en reviendra à la même question. Et une fois qu'on a trouvé le radical avec ce problème psychologique, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la justice, qu'est-ce qu'elle veut? C'est des résultats. C'est-à-dire, vous m'assurez que si vous le prenez en charge, c'est fini. Ben non, on ne peut pas assurer que c'est fini. Mais d'un autre côté, dans ceux qui sont contre toute intervention à ce niveau-là, moi j'ai entendu des collègues, des amis, donc ne pas vouloir entendre parler du tout de cette question. Alors qu'il y a des aliénés dedans, il y a des malades qui souffrent, qui sont délirants, il y a un mélange de radicalisation délirante. C'est très compliqué. Moi, chaque fois que je lis quelque chose là-dessus, je trouve toujours que les gens ont raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des psychopathes radicalisés, c'est vrai qu'il y a des radicaux qui sont délinquants, c'est vrai qu'il y en a qui sont des coques vides, remplis de théories folles, mais il y a aussi des intellectuels. Le 11 septembre, il était ingénieur chimiste, je crois, un truc. Bon. Donc on est devant une telle difficulté, on peut comprendre que, en particulier dans les CMP, il y a des gens qui redoutent de devoir, parce qu'il y a des quartiers, c'est pas pareil, hein, d'avoir un CMP dans le 93, hein, donc, et d'avoir un CMP à Neuilly. Donc ceux qui sont sur la ligne de front là, ils disent attention parce que nous on n'est pas, voilà, on n'est pas armés parce que ça
même
chauffe.
Même à janvier, hein, c'est pas.
Bien sûr, sur Suresnes, hein, sur Puteaux, il y a des problèmes importants. Mais il y en a qui sont, extrêmement exposés. Donc c'est très difficile. Mais je dis encore une fois, c'est un problème qu'on se pose en France. Hein. Je sais que, je crois, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède, il n'y a aucune discussion éthique. Les gens collaborent directement et expertisent en série tous les radicalisés ou en voie de radicalisation.
Mais ils n'écoutent pas les patients. Hein. Ils n'écoutent pas les patients. Ils ont une grille, l'ordinateur.
Oui, c'est des grilles.
On remplit la grille et on sort le traitement.
C'est des grilles actuariales. Il y a 40 questions.
Je voulais te poser une question parce que la semaine prochaine, le Pôle 14 organise une soirée autour du film de Depardieu qui vient de sortir, qui s'appelle 12 jours. Alors je voulais te demander, c'est quelque chose de nouveau dans la loi, cette histoire des 12 jours.
Oui.
Ça date de quand, ça?
Ben, il y a changé plus que moi, oui. Ah,
2013. Alors,
2011, c'était 2 semaines, c'était 15 jours.
Voilà, et ça a été réduit à 12 jours. Ce qui veut dire que c'était pour des patients médico-légaux ou c'est des patients
non.
en général
non, donc,
sous
contrainte.
Patients sous contrainte. Sous contrainte, voilà, oui. Obligation de soins. Donc, au bout de 12 jours, ils assistés d'un avocat, ils peuvent demander leur sortie, mais il y a le psychiatre qui donne son avis.
De toute façon, tout se passe.
Voilà.
Et le psychiatre donne son avis, mais il n'est pas présent.
C'est ça. Mais il a fait un certificat. Il a donné son avis, disons. Voilà. Hein? Donc, c'est une nouveauté, ça.
Oui, depuis trois ans et depuis deux ans. C'est parce que ce qui était reproché au droit français, c'est d'être un droit administratif, donc sans que le juge des libertés intervienne, et c'est la pression à la fois de la société, des familles, et puis de l'Europe, puisqu'en Europe, on est le seul pays qui avait un système d'internement administratif, au fond. Le préfet et le psychiatre décidaient de tout.
Voilà.
Alors qu'il y a privation de liberté.
Oui. D'accord.
Dans un but thérapeutique, mais il y a privation. Oui. Donc le juge donne son avis. Et alors seulement le juge donne son avis. Il est bien embarrassé, le juge, parce qu'il y a un certificat. Mais je crois que le film est très bien fait et on voit que. Le film a l'intérêt, je n'ai pas vu, mais on me l'a beaucoup parlé. Ça a l'intérêt de montrer aux gens qu'il y a des malades en psychiatrie. Et que ce n'est pas uniquement des gens qui se promènent. Et
qui sont privés de liberté.
Voilà, et qu'on a ramassé comme ça en disant tiens, on va remplir les lits. Voilà. Bon, ça, ils le voient. Mais par contre, les juges, eux, il y a des juges qui interprètent leur mission comme étant une mission, c'est mieux, procédurière. Et je crois que récemment. Moi, je sais qu'un jour, avec Bernard Cordier, on a été appelé à Paul Guiraud par le procureur de la République et à Paul Guiraud, parce qu'un juge d'instruction sur un problème d'heure, parce qu'il y a, oui. Il y a 24 heures, il y a 48 heures sur un problème d'une demi-heure sur un certificat, oui. Donc il n'était pas conforme. Donc il a demandé la sortie immédiate de 4 patients soignés en IMD, dont un qui était perfusé, parce qu'il avait un pathologie très lourd, des patients hyper lourds et hyper dangereux. Donc il a fallu faire une transgression, il a fallu les réinterner. Oui, non, le juge. Non, parce que le juge, lui. Le seul problème, c'est que le juge est irresponsable. Quand tu dis.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça le problème. Quand tu dis à un juge, mais. Je crois que c'est arrivé à Eras, une ou deux sorties intempestives. Si tu dis à un juge, mais ce patient va se suicider, et que le juge fait sortir parce qu'il y a un certificat qui n'a pas été effectué, le juge dit non, pas moi, parce qu'on sait que c'est vous.
Ah, parce que,
non, non, c'est la loi qui règle l'affaire. Alors, il y a des gens intelligents mais tu peux tomber sur quelqu'un. En général, les juges des libertés, on n'y met pas que des flèches.
Oui. C'est vrai. Alors, c'est vrai, c'est comme les juges de côté avancement.
Mais je crois que le film est très bien fait. On va dire qu'il était très bien fait.
Quand il n'y a plus la loi protège.
Alors, ça s'appelle. Alors, je fais un peu de publicité.
Je disais que plus, il y a plus la loi protège le patient, plus ils sont nombreux à être hospitalisés sous contrainte.
Alors, c'est vrai que.
C'est vrai, hein, ça s'est beaucoup réjoui. À cause de la dangerosité. C'était de Sarkozy, par contre. Alors, je vous fais un peu de publicité, c'est jeudi prochain, c'est ça ? Le 14 décembre, 20h30, au cinéma Les Trois Luxembourg, sur donc, le film de Pardon, 12 jours, et c'est animé par, alors ça s'appelle La Liberté, le psychiatre et le juge. Je vous recommande, je vais bien nombreux
ce soir. Voilà, je voulais remercier. Merci.